Ouellette, en direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
h 09, on est de retour et c'est le défilé de nos chroniqueurs qui sont de retour. Très content de réaccueillir encore une fois Catherine Loubier en onde. Bonjour Catherine, on vient de se le dire, mais je te le redis en public. Bonne année, je te souhaite le meilleur pour 2026. Oui. La santé en haut, évidemment, comme d'habitude.
Absolument, la santé, bonne année à vous deux puis à toute l'équipe.
La
merci.
Santé
à vous trois.
Et pas trop de guerre, là. Quoique là, on regarde ça aller puis on a le droit d'être inquiet. On veut pas partir sur la peur, mais on a le droit de se poser des questions. Je te lancerai directement dans le sujet, parce que je pense qu'il y a du matériel en masse.
Tu veux
commencer avec quoi? Écoute, là, il y a Iran quand même qui fait jaser. Donald Trump ce matin même qui dit, malgré que l'Iran a mentionné qu'eux autres, ils avaient repris le contrôle. Donald Trump dit, lâchez pas, help is on the way. Est-ce que tu veux parler du Venezuela? Est-ce que tu veux parler de Cuba, du Groenland?
De tout ça. L'Iran, ça attire moins d'attention médiatique. Ça commence à avoir plus d'attention médiatique, mais c'est extraordinaire ce qui se passe là. En même temps, c'est effrayant parce que je pense qu'on est rendu à 2000 morts. Mais je pense qu'il y en a plus, et on le voit bien.
Les chiffres sont durs à avoir.
Oui, des atrocités, le peuple qui se soulève, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, c'est différent. Et qu'est-ce que vont faire les États-Unis? Faut être très, très prudent. Attaquer l'Iran, ça c'est l'ouverture d'un autre, peut-être, conflit. Mais sinon, d'avoir des pressions diplomatiques, ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, c'est avec ça que je commence pour dire que on vit vraiment en 2026. On commence l'année dans un monde en crise, hein, tu sais, puis ça va tellement vite. On a de la difficulté collectivement à absorber tout ce qui se passe, tous les chocs que provoque l'administration Trump. Qu'on prenne justement Venezuela, là, toute cette histoire d'impérialisme, d'expansionnisme américain, le grand rêve de Donald Trump. Toute la suite des tarifs commerciaux, puis le bris des chaînes d'approvisionnement, les contrôles migratoires, les guerres. Et les pays voyous, là, Russie, Chine, Iran, qui sont déstabilisés. L'Iran est déstabilisé. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, toutes ces factions de militaires, si on peut dire militaire, là, de l'Iran ont été affaiblis et ça paraît. Et y a, la Chine et la Russie n'ont pas eu une réaction aussi forte qu'on aurait pu penser à l'invasion, pas l'invasion, mais le retrait ou l'extraction de Maduro du Venezuela. Bien sûr, le régime n'a pas tombé.
On dirait qu'ils ont pris une position d'observateur. T'sais, on dirait qu'ils... Puis comme tu l'as bien mentionné, ça va tellement vite que même ces pays-là semblent un peu ébranlés, dire ben, qu'est-ce qu'il fait exactement?
Ils ont quand même réagi sur la saisie des pétroliers. Là, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Je termine là-dessus pour rentrer dans le plus concret, mais il y a aussi une grande accélération des leviers d'influence et une grande mouvance qu'on ne voit pas, qui est intensifiée dans des campagnes de médias sociaux, sur le dark web, par des activistes payés par ces régimes-là. Notre monde, c'est différent. C'est très différent. Et on voit que M. Trump, les babines suivent les babines, hein? Avec l'hémisphère. On en avait parlé ensemble sur vos ondes. Toute sa stratégie autour de renforcer la position des Américains dans l'hémisphère. En gros, tu sais, il dit, je veux pas de ça dans ma cour. Je veux pas d'un pays qui est un véhicule pour des narcotrafiquants puis des criminels transnationaux et des régimes comme la Chine et la Russie qui viennent prendre ce pétrole-là pour s'enrichir, pour financer leurs opérations, pour attaquer nos démocraties, pour mener une guerre en Ukraine.
Ce qui, sur le fond, n'est pas faux, mais on dirait qu'on sait... Tu sais, moi, je vois là-dedans quelque chose de générationnel. On dirait que, tu sais, il y a eu l'avant et l'après-deuxième guerre mondiale. On dirait qu'on s'est dit, après ça, nous autres, là, les Occidentaux, plus jamais. Nous, on discute, on se fait des panels, on a l'OTAN, l'ONU. On n'est pas comme ça, nous. Et on s'est convaincu que, on dirait, puis ça, c'est mon analyse, mais on dirait qu'on s'est convaincu que la planète fonctionnait comme ça, alors qu'on est comme dans un monde bidimensionnel. T'as nous autres qui croient que ça fonctionne de même, et t'as le reste de la planète qui marche pas de même. T'as Poutine qui dit « Moi, je veux la Crimée, je prends la Crimée. » T'as la Chine qui dit « Un jour, on va prendre Taïwan, ça va être comme ça. » Et tout le monde vit bien avec ça, mais quand Donald Trump fait ça, tout le monde vire fou. Alors que lui, il se dit « Écoutez, là, moi, eux autres jouent un jeu de société, nous autres, on en joue un autre. J'ai envie de jouer le même jeu qu'eux autres. »
Mais c'est en plus, si on regarde ça comme un jeu de risque, là, les puissances hostiles avancent. Donc, de prendre des pays comme véhicule, d'avoir une attitude avec le peuple qui fait en sorte que les Vénézuéliens étaient sous le bord de la famine, là, et de s'enrichir comme ça, et de progresser avec le nombre de navires, le nombre de la flotte militaire de la Russie puis de la Chine. Il y a quelque chose qui se passe et en même temps, Donald Trump repousse sur ces régimes-là et reprend le contrôle de certains couloirs stratégiques. T'sais, quand on regarde le Venezuela, le motif de sécurité nationale pour éradiquer les cartels de drogue, il ramène ça à son agenda domestique, là. Mais en fait, il veut arrêter que les mauvais s'enrichissent avec l'argent du Venezuela. Puis pour le Groenland, c'est la même chose. C'est un motif de sécurité nationale pour contrôler les voies stratégiques entre la Russie et la Chine et l'hémisphère, en fait. Puis c'est une compétition stratégique de contrôle de l'Arctique aussi. Donc tout ça prenait un président qui n'avait pas froid aux yeux, qui se fout un peu du droit international.
Il l'a clairement dit en plus, ça c'est l'autre affaire.
Il dit,
moi, c'est ma moralité. Moi, je veux pas faire mal au monde, mais je fais ce qu'il y a à faire, puis le reste, ben, c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, on se retrouve avec un Trump, tu sais, qui est obsédé par quoi? Si on prend le Groenland, il y avait 11 bases militaires au Groenland qui appartenaient aux États-Unis. Il aurait pu les réouvrir, il aurait pu négocier d'avoir un plus gros appareil. Mais non, parce que c'est pour les ressources, pas vraiment. C'est vraiment aussi un désir impérialiste, expansionniste qu'on saisit. Et c'est pas une bonne nouvelle non plus pour le Canada éventuellement. Mais pour ce qui est du Venezuela, il obtient quand même des résultats. Moi, je me dis qu'il faut toujours regarder les résultats. Maduro n'est plus là. Hein? Il a fait libérer des prisonniers politiques. Boum, un autre résultat. Il s'est fait promettre un transfert négocié de 30-50 millions de barils de pétrole par le Venezuela. Un autre résultat. Il n'a pas réussi à avoir des discussions très positives avec les pétrolières américaines pour qu'ils puissent investir 100 milliards de dollars pour développer le pétrole au Venezuela. Mais il a saisi un grand nombre, 4, 5, 6 navires qu'on appelle des navires fantômes, qui transportaient, en battant le pavillon d'un autre pays, qui aurait acheté un drapeau pour pouvoir pénétrer dans ces eaux-là. Ben, il les a saisis et il a pris le pétrole.
Et il a surtout aussi ébranlé tous les associés puis les compagnons de Maduro du Venezuela. Cuba, qui se fiait sur le Venezuela. T'as la Colombie qui est en train de faire une crise de panique aussi. On vient ébranler aussi d'autres agents perturbateurs dans les alentours, ce qui ralentit tout le monde
dans
ce coin-là.
Exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, c'est vraiment une gouvernance d'influence, d'influence sur ces régimes-là. Cuba assurait toute la sécurité du président Maduro, puis assurait tous les renseignements, l'intelligence pour le président Maduro. Et Cuba est au service de la Russie, on le sait, là. Hein? Donc voilà, c'est un système. Hein? C'est un système de ces pays-là qui sont implantés puis qui utilisent différentes plateformes géopolitiques. Et oui, c'est vrai que dans les dernières années, ils se sont renforcés. C'est là-dessus qu'il réagit. Tantôt au Mexique, il promet d'être là, boots on the ground, pour défaire les cartels. Et au Venezuela, ben écoute, il a été clair. Il a dit, on va y aller, on va le prendre, que ce soit par les moyens difficiles ou faciles, on sera là.
Il y en a qui sont un peu... Oui, mais il y en a qui sont un peu ébranlés quand même parce que c'est encore le régime. T'sais, c'est encore la même gang. On a capturé le président, mais c'est ça, c'est la vice-présidente, c'est la même gang qui est encore là. Mais évidemment, d'après moi, c'est temporaire.
Bien, là, il rencontre Mme Machado, qui a gagné le prix Nobel de la paix, là, qui va peut-être lui donner. On verra.
Qui l'a discrédité quand même, oui.
Qui ne l'a pas discrédité, en fait, qui est très...
Non, mais Trump a dit « Elle n'a pas la faveur du peuple. Je ne pense pas que c'est la bonne personne pour diriger le pays. »
Oui, mais je pense que c'était correct. Parce que là, elle sera à la Maison-Blanche jeudi.
Ouais.
Donc, il y aura des discussions entre les deux. Mais Mme Machado avait pas... Tu ne peux pas changer un régime d'un jour à l'autre. Là. Ça serait beaucoup trop « disruptive », comme on dit en anglais.
Ouais,
là. Donc...
Ouais.
Là, il y a la seconde aux commandes de Maduro. Il a exigé certaines choses de ce sous-régime-là. Et tranquillement, pas vite, il va vouloir instaurer des institutions démocratiques. Pour avoir une élection, il faut que tu aies des institutions démocratiques. Pour ça, Mme Machado va avoir un rôle à un moment donné. Tu ne peux pas changer ça du jour au lendemain. Et effectivement, la preuve sera dans... les détails sur ce qui va arriver avec le Venezuela dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Puis parmi tous les pays puis les États dont on vient de parler, il y en a un quand même qui fait un peu bande à part et qui fait réagir différemment. C'est-à-dire que, bon, je pense que, tout dépendant, là, mais à certains niveaux, tout le monde peut comprendre que, bon, Venezuela, avoir la réaction du peuple, on a compris disons que se battre contre ça, ben oui, mais tu sais, c'est le peuple. Tu sais, je veux dire, moi, je suis content.
Le peuple est pour, tu peux pas vraiment...
Exact.
T'sais.
Puis, bon, Cuba n'a pas tant non plus une espèce de d'élan favorable de la planète entière puis du monde occidental, du moins. Mais quand on commence à parler de Groenland, là, c'est Danemark. Là. Danemark, ben c'est l'Occident. Ils vivent comme nous autres. Puis les gens ont peut-être plus de sympathie.
C'est un pays de l'OTAN.
Ben, d'ailleurs, le Danemark a fait une plainte à l'OTAN. Mais je veux juste rappeler au Danemark que l'OTAN, c'est plus de 70 %, c'est les États-Unis. Donc, c'est sûr qu'après ça, essayer de se battre avec 30 % qui reste, là, tu viens de faire imploser l'OTAN, là, si vraiment il y a une réaction à ça.
Est-ce que ça se peut une réaction? Tout d'abord, moi, je me suis dit, c'est impossible, tu te mettras jamais les États-Unis à dos.
La France bombardera pas. Là,
oui, mais tu sais, faut voir. Là, c'est parce qu'on prend ça au premier degré Trump. Là, hein?
Ouais.
Mais après, bon, ben là, il dit que le Danemark se défend avec deux, trois chiens de traîneau. Ça, c'est Trump. Mais après, tu as Stephen Miller, qui est son conseiller, qui lui jette toujours de l'huile sur le feu. C'est lui en premier qui a commencé à dire on va utiliser la force. C'est lui qui dit ça en premier.
Ouais.
Hein? Et là, après, tu as M. Rubio, qui est un candidat aspirant à être président en 2028, qui dit non, non. On ne saisira pas le Groenland par la force. C'est plutôt, on veut l'acheter, le Groenland. Et là, il y a eu toute l'histoire des rumeurs qui voulaient donner des montants d'argent aux habitants. Et puis, depuis ce temps-là, les Groenlandais ont sorti eux-mêmes, dont leur représentant, leur premier ministre. Et il a dit, on ne veut pas s'annexer aux États-Unis, on ne veut rien savoir de ça, on est indépendant. C'est le message des pays de l'OTAN aussi. C'est le message du chancelier allemand. C'est le message du Danemark, bien sûr. Mais, je veux dire, il y a différents degrés avec Donald Trump. Il y a toujours la même tactique. Hein? Il va toujours avec une image très, très forte qui illustre le résultat ultime sur lequel il s'enligne. Et puis après ça, la méthode, souvent, elle est moins forte qu'on aurait pu le penser.
Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, puis je veux dire, il y en a plein là, qui l'ont en horreur. Mais si vous voulez la comprendre, la méthode Trump que tu es en train d'expliquer, là, il a écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle The Art of the Deal. Puis
ben
oui, il parle de compagnie puis de business, mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire, il part gros, il part épeurant, il est menaçant, l'autre a peur, il recule. Finalement, ils s'entendent, tout est correct.
Il maîtrise l'art d'influencer des régimes qu'on pensait, il faut lui donner ça, qu'on pensait immuables, qu'on pensait intouchables. Et donc, lui, il ne voit pas ça comme ça du tout. Donc, il va falloir voir. Là, maintenant que les dés sont joués, que le débat est sur la table entre les États-Unis, le Groenland et les autres pays de l'OTAN, là, il y aura des négociations. D'ailleurs, le chancelier allemand est sorti pour dire « Je partage les craintes sur la sécurité entourant le Groenland. » C'est vrai que la Russie et la Chine ont de plus en plus d'actifs qui circulent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la série de diplomates
Non.
En anglais, mais
oui.
Il y avait une scène justement qui décrivait exactement l'emplacement des actifs de plus en plus dangereux pour la sécurité hémisphérique. Donc, le chancelier allemand a dit, je comprends et je veux une solution mutuellement acceptable. Donc, lui, il s'est tout de suite mis comme partenaire pour avoir un tête-à-tête avec les Américains et dire comment on fait là, pour renforcer la sécurité autour du Groenland au lieu de paniquer. Et donc, c'est pas la première fois, hein, parce que le président Truman, après la Deuxième Guerre mondiale, avait fait une offre pour acheter le Groenland.
Oui, ben, tu m'as appris ça d'ailleurs avec deux trois autres intéressants facts. Là, il y a ça, il y a effectivement ça. Mais l'achat de territoire, je comprends que depuis quoi 4 ou 5 même décennies, on n'a pas vu ça vraiment.
Ben, disons achat. Appelons ça on a vu ça au Québec. Un partenariat, ça vous fait penser à quelque chose. Une alliance économique, un partenariat économique.
Oui, mais même acheter des territoires, il fut un temps où c'était pas... c'était une nouvelle, mais c'était pas... Je veux dire, ça se faisait. Puis tu m'en donnes des exemples. La France a vendu la Louisiane. Napoléon a effectivement vendu la Louisiane
pour 15
millions.
Oui, mais ça, c'était dans le temps des grands empires.
Oui, mais quand même, ça se faisait. Tu sais, l'achat de l'Alaska. Tu me parles des îles Vierges au Danemark. Il y a le Québec qui a déjà essayé d'acheter une île, même l'île d'un Caraïbe. Tu sais, c'est pas... Aujourd'hui, on voit plus ça, on n'entend plus ça, là.
Ben, aujourd'hui, on appelle ça des traités de économiques, en fait, hein? Parce que si acheter Groenland, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux en contrepartie d'assurer ta sécurité, d'augmenter mes actifs. Il a dû se dire j'avais 11 bases militaires, il m'en reste presque pas. Il faut augmenter ça, il faut repousser la Chine, la Russie. Pourquoi je ferais ça, moi, sur un territoire qui ne m'appartient pas? J'ai rien en retour pour protéger tout ce beau monde-là. On est les larrons en foire, nous, les États-Unis, de faire ça pour rien. Alors, c'est ça la psyché de Donald Trump. Il dit, je vais renforcer la sécurité du Groenland, mais je vais avoir accès aux ressources, puis pourquoi pas posséder le pays au complet.
Et en terminant, parce que là, on parle de tout ce qui nous entoure, mais le 51e État, est-ce qu'on est dans le même ordre d'idées pour nous autres? Je pense que c'est la question qui devrait nous préoccuper.
Oui, bien c'est ça. Le motif, c'est contrôler le passage stratégique du Nord-Ouest dans l'Arctique.
Pas mal, nous autres.
Le passage du Nord-Est en Russie, il passe bien des bateaux, c'est très, très stratégique, il est fondu, il est ouvert. Nous, il y a de plus en plus d'intérêt pour des nations qui ne sont pas d'Arctique, comme la Chine qui se dit maintenant une nation de l'Arctique.
Ben oui.
Hein? Et la Russie qui est notre voisin immédiat, puis l'Iran, etc. Donc, de contrôler le passage stratégique du Nord-Ouest, ça s'en vient, c'est sûr. Et plus le Canada va être divisé, plus on sera une proie qui est plus facile pour jouer le jeu. Et on revient à nos mots de tantôt, d'influence de certains pays et de certains régimes dont Donald Trump est maître dans l'art.
Qu'est-ce que tu veux dire par diviser? Tu as dit plus le Canada est divisé.
C'est-à-dire, le Canada divisé, je veux dire, on a quand même une province qui s'en va vers une tentative d'indépendance qui s'appelle l'Alberta.
Oui.
Je pensais que tu aurais pu dire le Québec aussi.
Le Québec aussi, j'allais dire le Québec aussi, qui a son historique et qui, en ce moment, s'il y avait une élection aujourd'hui, élirait le Parti québécois.
Oui, absolument.
Donc, ça profite à un Donald Trump qui regarde ça puis il dit « Quelle stratégie je vais prendre pour les casser? »
Je vais les entourer.
D'après moi, il finance PSPP.
Ouais, regarde. C'était
un petit peu complotiste, mais
dans un film,
who knows?
Ça pourrait être plausible, là, mais dans la réalité, on dira pas ça à la radio.
Non.
Donald avait pas dit à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, je me souviens plus pourquoi je sais ça ou peut-être je l'ai inventé. Mais il n'a pas dit qu'il rêvait d'une super Amérique.
Oui, lui, il veut. Il voit,
donc,
là, le territoire.
Les États-Unis, une super Amérique. Donc,
il a même publié, Patricia, une carte de l'hémisphère avec un drapeau américain à grandeur.
Oui.
Il possède déjà l'Alaska sur notre flanc gauche. Et là, sur notre flanc droit, il veut posséder le Groenland.
On va être entouré, là.
Oui, c'est ça, on va être entouré.
On est dans l'entonnoir.
On va être comme dans un étau.
Ouais. Ouais, exact. Et en terminant, stratégiquement, est-ce qu'on a affaire au meilleur move de premier ministre d'aller s'asseoir avec la Chine, là?
Ben, écoute...
Il n'y a comme pas le choix,
moi,
en même temps.
Mieux. Ouais, lui, il se dit que probablement l'entente de libre-échange avec les États-Unis est morte. et en tout cas, lui, il est bien placé pour le savoir, puis qu'il faut qu'il diversifie le marché, puis il s'en va vers la Chine. C'est une bonne idée à court terme ou à moyen terme. À long terme, si on diversifie avec la Chine, il faut tout de suite travailler à diversifier encore plus avec d'autres pays et ne pas rester le partenaire, par exemple, unique du canola de la Saskatchewan, par exemple.
Oui.
Pour, on a parlé sur vos ondes, pourquoi? Parce que les Chinois, c'est un pays hostile, communiste, qui utilise les relations économiques comme levier politique.
Mais ça se peut-tu
ça
qu'on,
changera jamais.
Donc, on va d'une manière ou d'une autre, parce que je trouve que le Canada, ce qui nous représente bien des fois, là, ou en tout cas les dernières fois, du moins avec Justin Trudeau, c'est une belle naïveté. Tu sais, je trouvais qu'on avait l'air...
Ça, puis le sirop d'érable.
La cloche et l'idiot. Ça se peut. T'sais, on dirait un piège devant nous, c'est-à-dire que nous, on va être de bonne foi. T'sais, je nous vois tout le temps les Canadiens de bonne foi, mais par en arrière, on ne voit rien aller en dessous de la couverte. Fait que je me dis, c'est un peu ça avec la Chine. J'ai l'impression
Il faut que les bénéfices qu'on aurait de la Chine là, dans une relation, parce qu'il faut dire que la relation était complètement bousillée par Justin Trudeau. Ça fait 8 ans qu'un premier ministre n'est pas allé en Chine. Et donc, si on y retourne, c'est d'abord pour régulariser une relation, parce que quand tu as un pays qui se fait kidnapper deux Canadiens qui tuent des
Il y a de l'ingérence?
Des ressortissants de démocratie qui maltraitent et éliminent les minorités dans son propre pays, qui a un traitement inhumain de ces minorités, qui fait de l'influence transnationale, qui espionne et qui s'ingère dans nos élections au Canada, qui est sur le point d'envahir Taïwan. Il faut que tu te demandes, quels sont les bénéfices que je vais avoir par rapport aux risques que je compte, moi, premier ministre qui agit au nom des Canadiens? Et il faut que tu choisisses tes batailles. Il faut qu'il y ait certains secteurs où tu ne peux absolument pas faire d'entente commerciale. D'autres où tu veux sauver tes secteurs, puis que tu vas en faire, mais tout en ayant une stratégie pour diversifier. Puis il faut tenir nos amis proches, là, mais pas trop.
Oui, c'est ça.
Il ne faut pas qu'ils irritent les États-Unis davantage aussi. Là,
ben non, mais c'est ça. Puis fait que je trouve que finalement, le constat, c'est qu'on est tellement dans un moment fragile et économiquement pour le Canada qui doit se prendre un risque tel que d'aller voir la Chine.
Ben oui, tu as tout à fait raison.
Je trouve que ça ne présente pas une position de force, mais une position de faiblesse.
Ben oui, parce ça fait quêteux.
Oui, c'est ça.
Ça fait, notre body nous a lâché, on a besoin de vous autres. Là.
Oui, mais on se l'a dit, les investissements directs étrangers au Canada sont en chute libre. C'est catastrophique.
Ouais.
Tu sais, les exportations, on va exporter où? C'est...
Ouais. Bon, et on a compris aussi que l'Europe ne sera pas la solution magique. Là. L'Europe, l'Europe s'organise.
Pourquoi ben ça le serait magiquement? C'est
exact.
Ça que j'essaie de dire toujours.
Exact.
C'est pas naturel. Mais il faudra se parler à un moment donné puis regarder si vraiment les exportations avec les États-Unis ont baissé tant que ça. Quel est l'effet réel? Sur le marché canado-américain.
Tête froide. Exactement.
Ouais,
c'est difficile de ce temps-là, mais tu as exactement la bonne posture. Hey, Catherine, une question pas personnelle, mais c'est parce qu'il y a quelques auditeurs qui demandent, est-ce qu'on peut te suivre à quelque part? As-tu des réseaux sociaux? Ou tu réserves tout ça pour nous et tes chroniques?
C'est juste pour vous.
Ah.
Non, j'ai des réseaux sociaux. Je ne suis pas extrêmement active, mais je suis sur X à @ un commercial, Cat Loubier, C-A-T Loubier.
OK.
Et donc, je suis là. On peut retrouver mes chroniques aussi des autres médias. Puis je m'implique des fois sur X, effectivement.
C'est bien, moi, les gens que je vois qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux, je me dis, ils travaillent.
Oui, c'est ça. Je ne peux pas tout le temps être là-dessus non plus. Exactement.
Merci infiniment. C'est toujours intéressant. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Merci, Catherine.
Même chose. Merci.
Salut,
à
au
deux.
Plaisir.
Bye-bye.
Catherine Loubier. Chroniqueuse extraordinaire, ancienne déléguée générale du Québec à New York, conseillère principale à l'époque de Stephen Harper et clairement quelqu'un qui remue ciel et terre et qui connaît son monde. 13h32, courte pause, on revient, ça sera pas bien long. Gary va venir s'installer.
Willette, en direct.
Radio X.